Bonjour à tous. Eh bien, c'est la rentrée, et puis avec la rentrée, on poursuit le travail. On avait commencé juste avant les vacances, je crois que c'était au mois de juin. On avait fait un message, on a vu ensemble un message sur le péché. Le péché, ça fait peur à tout le monde, bien entendu. Mais finalement, ça s'était bien passé. Donc, on est sur, on va dire, une thématique, le péché à la lumière de la parabole du semeur et des terrains. Alors, je vais relire rapidement cette fameuse parabole, et puis on va démarrer. Alors, on est dans Marc 13, versets 18 à 23. Je ne vais pas lire l'ensemble, mais juste les parties qui m'intéressent. Donc, Jésus disait, « Certains sont le long du chemin où la parole est semée. » Donc, certains, ce sont les terrains. Les terrains, c'est-à-dire c'est vous. Donc, certains, certaines personnes, le cœur de certaines personnes, donc le terrain, certains sont le long du chemin où la parole est semée. La parole, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Et là, on avait vu que si Satan peut venir, c'est qu'en général, il y a chez la personne concernée un manque de sérieux, de la négligence, de l'irresponsabilité. Parce que lorsque le Satan vient, c'est qu'on a laissé les portes ouvertes. Rappelez-vous, Adam et Ève, le serpent a été libre de rentrer, on ne l'a pas chassé. Adam et Ève n'ont pas fait leur job, il aurait pu rester à la porte, à la clôture, mais il est rentré. De même, deuxième, la suite du verset, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Et ça, c'est formidable. Quand j'entends ça, ça me réjouit. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Et là, ça fait mal au cœur. Ils sont les hommes et les femmes d'un moment, d'une seconde. Ça, c'est moi qui rajoute. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent. Et là, il est question de la superficialité du cœur, de l'immaturité, de la légèreté, etc. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Enfin, d'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Personne n'aime les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, les passions en tout genre. Alors, quand on voit passions en tout genre, on peut tout mettre dedans. Même les passions amoureuses, les plus légitimes. Même avec votre époux, votre femme, je veux dire, l'amour peut vous rendre... je dirais, inapte à progresser, simplement parce que vous êtes chargé d'un fardeau qui vous tourmente. Pas forcément en mal, mais en bien, parfois. Mais attention, l'amour, si ça vous prend trop la tête, ça peut vous faire déraper, quoi qu'il arrive. Donc, ça peut étouffer. Donc, étouffe la parole et la rend infructueuse. Occupation, préoccupation, souci, illusion. Passion en tout genre, oui, bah, c'est ça. Donc voici ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui, c'est essayer d'approfondir avec vous la question du péché à la lumière de la parabole du semeur et des terrains, et voir finalement s'il est facile de lutter contre le péché quand il survient, ou si finalement c'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc démarrons. Premièrement, de voir comment, en réalité, il est possible de lutter contre le péché. Comment, concrètement, il est possible de lutter contre le péché. Deuxièmement, de voir, à partir de la parabole du semeur et des terrains, qu'on ne lutte pas victorieusement de la même façon, qu'il s'agisse du péché qui arrive comme ça, ou qu'il s'agisse du péché lié à votre terrain. Pas pareil. C'est pas pareil du tout. Il y a des péchés qui sont exogènes, et non pas endogènes. Exogène, ça veut dire que ça arrive de l'extérieur. Ce n'est pas lié à vous. Ça vous tombe dessus, et là, il faut faire quelque chose. Il y a des péchés qui naissent à l'intérieur, parce qu'il y a un terrain propice. Ce n'est pas pareil. Commençons par voir comment il est possible de lutter contre le péché. Mais avant cela, rappelons quand même ce qu'est le péché, même si tout le monde le sait. question de principe. Il s'agit d'une façon générale de notre refus conscient. Notez bien conscient, vous allez comprendre pourquoi. Et sous de multiples formes, par le refus d'être conduit par Dieu. Beaucoup d'entre nous se diront en eux-mêmes ce matin qu'au fond, il est plutôt difficile, même en tant que chrétien, de lutter contre le péché. Ça plane, vous voyez, au-dessus des têtes. Les gens se disent, ah, quand même, le péché, là, il y a l'échec qui est toujours là. Tout le monde se dit ça ici. Le péché, c'est trop dur. Il y a quand même quelque chose qui, où on ne se sent pas très à l'aise, vous voyez. Mais moi, je répondrai à tous mes frères, à tous mes sœurs ici, tous mes amis ici, et même mes ennemis. Je blague, hein. Qu'ils ont tort et raison à la fois de se dire ça. C'est jamais simple. Ils ont tort de se dire que c'est insurmontable, mais ils ont aussi raison de penser que ça peut l'être. C'est pas si simple. Dès que vous voulez appréhender des choses simplement, de façon catégorique, schématique, on se plante. Ça ne marche pas avec Dieu comme ça. C'est faux. Ces choses sont compliquées. Tout dépend s'il s'agit de lutter contre le péché, d'une façon générale, ou s'il s'agit de lutter contre l'état de péché, c'est pas pareil, l'état de péché lié à votre terrain. Vous voyez la différence? L'état, un état, c'est un état qui est durable, qui est profond, qui est caché, parfois même à votre conscience. C'est pas simple, hein? Eh bien, la Bible décrit le péché, et là, ça devient technique, vous allez bien vous accrocher. La Bible, c'est un verset technique, oui. La Bible décrit le péché comme le résultat d'un processus. Un processus qui comporte plusieurs étapes. Jacques 1, 14 à 15, écoutez bien, regardez bien. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Numéro 1, convoitise. Qui l'entraîne et le séduit. Étape 2 et 3. La convoitise, on est tenté par sa convoitise, qui entraîne et séduit. C'est pas pareil. Vous êtes entraîné, vous dégringolez. Vous vous affaiblissez, et vous êtes séduit. Vous voyez ça? Il y a déjà trois points là. C'est pas fini. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché. C'est beau ça. C'est beau parce qu'il y a un côté littéraire qui est beau. C'est pas simplement, alors c'est moche, mais de façon littéraire, c'est agréable à lire. C'est-à-dire que conçoit et enfante. Mais c'est vrai, ça veut dire quelque chose. Concevoir, ça veut dire qu'on est en train d'échafauder quelque chose. Jusqu'à la conception, les mamans ici savent très bien ce que c'est que l'enfantement, pardon. Concevoir un enfant, enfanter, ça veut dire accoucher. Vous voyez, il y a des étapes là. La convoitise, l'entraînement, la séduction, la conception, l'enfantement. Et enfin, le péché arrive à son terme et il engendre la mort. Point final. Vous êtes KO. Knockout. C'est ça. Hein? Vous voyez, c'est un verset très, très, très important et c'est très sérieux malgré mes allures, humoristiques. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Donc la convoitise est ici associée au péché et elle en est le point de départ. Le péché est quant à lui l'aboutissement de plusieurs étapes bien identifiées. On les a vues. Cela ne vous a pas échappé. C'est très logique, puisqu'il y a plusieurs étapes qui conduisent au péché. Eh bien, cela signifie aussi qu'il est possible à chaque étape de faire quoi ? Eh bien, de s'arrêter. Et oui, arrêtons de dire que j'ai succombé. J'ai succombé, non, c'est trop facile. C'est faux, ça. C'est un mensonge, c'est un péché sur un péché. Péché après avoir péché. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait, là? Il est possible à chaque étape du processus de péché de prendre une décision, de changer encore de voie, et donc de mettre un terme au processus en cours par un grand non. Non à la convoitise, non à l'affaiblissement, non à la séduction, non à la conception du péché, non à sa consommation. Et voilà, on peut. C'est possible. Prenons par exemple l'exemple d'un péché très grossier qui est celui de l'adultère, par exemple. C'est grossier. Alors, là, il y a un piège là-dedans. La plupart d'entre vous n'avez pas commis l'adultère. Alors, si on prend les 10 commandements, ici, vous êtes tous saints. Même les gens dans la rue, hein, la plupart, ils sont saints. Si on s'en tient aux 10 commandements, qui a tué ? Pas beaucoup de gens, hein, en général. Qui a volé ? En général, pas beaucoup de gens. Qui a commis l'adultère ? Mais, vous voyez, ça ne concerne pas tout le monde. Alors, il y a des gens qui s'estiment, hop, moi, j'ai commis aucun péché. Puisque quand tu prends la liste, t'es bon, quasiment bon. Bon, est-ce que tu as aimé ton Dieu de toutes tes forces ? Peut-être pas. Peut-être pas. Vous voyez, quand on creuse un peu. Donc, oui, on pourrait se faire se tromper soi-même, mais on va partir sur un péché, je dirais, schématique, ça permet d'être pédagogique. Bon, alors, ok. Allez, on va dire, je suis un homme. Allez, je suis marié, attention. Je rencontre une femme, elle est jolie, tout ça me plaît. Je rencontre au travail. Ça commence à me dire, ah, ben, on s'entend bien. Elle est jolie. La convoitise. Et là, hop, 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 hop. Après, l'affaiblissement. Ah, ben, on se croise une fois, deux fois, trois fois. Hop, ah, ben, on se sent ramollir. Non, mais, j'assure, hein. On se sent ramollir, on sent que on est attisé, on est fragilisé. Et puis la séduction. Puis on se dit, bah, après tout, c'est méchant ça, c'est vilain, c'est. Après tout, il n'y a pas de mal. Oui. Et puis après tout, j'ai rien fait. Et puis après tout, aimer, est-ce que c'est vraiment mauvais d'aimer ? Dieu a dit, tu ne commettras pas l'adultère. Mais après tout, la séduction. Après tout, l'amour, ça reste l'amour. Pourquoi on ne pourrait pas aimer deux personnes en même temps ? Ben, j'aime ma femme, mais je peux aussi aimer quelqu'un, mon cœur est grand. La séduction. Dieu a-t-il vraiment dit, réellement dit ? Ouais, donc on se monte un raisonnement pour essayer de se justifier. Et puis après, la conception du péché. On se dit, ah tiens, si je l'invitais là, une fois juste, bah, de toute façon, un peu plus, un peu moins, là au boulot, bah, si on allait boire un verre, la conception du péché. Et puis après, le soir, dans sa chambre, on commence à réfléchir. Ouais, non, mais si on réservait un hôtel un jour, ouais, ça vous fait rire, mais c'est ce qui se passe. C'est trivial hein, comme truc. Hein. Et puis, l'enfantement du péché, on décide. Bon, ok, de toute façon, je n'ai jamais péché dans ma vie, après tout, je n'ai jamais trompé ma femme. Bon, Dieu me pardonnera, parce que là, en plus, je me dispute avec ma femme souvent ces derniers temps. J'ai besoin d'affection, et c'est... Mais c'est vrai ce que je vous dis. Je savais que ça allait vous faire rire. Mais c'est cruellement vrai. C'est cruellement vrai, ça. Et après tout, j'en peux plus, je suis fatigué. Et ça, bam, ok, j'y vais. Et puis après, je vous passe les détails triviaux. Même quand vous avez fermé la chambre de l'hôtel, vous pouvez encore vous arrêter entre le pantalon, le slip et le reste. Je termine. Oui. Non mais voilà. Non mais j'aimerais juste vous dire que si vous êtes honnête, il y a de multiples étapes qui vous permettraient encore de dire non et de fuir au dernier moment, même en slip. Voilà. Voilà. Malheureusement, c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'il faudrait faire si vraiment, malheureusement, on était amené à ça. Mais il y a toujours des étapes. Donc Dieu nous encourage à lutter contre le péché en nous faisant une promesse qui est celle du succès de la victoire. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de succès de victoire. Moi, je vais nuancer cette affaire-là. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, vous avez Caïn qui a tué son frère par jalousie. Le Seigneur lui dit, Dieu lui dit, le péché campe à ta porte et toi, tu domineras sur lui. Il lui ordonne, il ne lui dit pas, mais tu étais trop faible. Il lui dit, tu peux te reprendre là, hein, tu peux faire autrement. Jacques 4, 7, là on s'adresse à des chrétiens, c'est-à-dire à nous qui sommes nés de nouveau, disciples de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, c'est un ordre, et il fuira loin de vous. Il est possible d'être victorieux, il est possible de résister. Alors vous allez me dire, oui mais alors ça c'est pas biblique, hein, parce que je sais toujours que quand je dis quelque chose, on peut me tacler derrière en me disant ça c'est pas biblique. Alors à quoi il a servi Jésus ? Pourquoi Jésus est venu sauver les hommes, etc. Quand on lit Romains, on voit bien qu'il y a un pavé sur le péché on montre que l'homme, au final, l'humanité globalement est incapable. Parce qu'on peut résister une fois, deux fois, mais au cours d'une vie, c'est le problème. On ne résiste pas. Personne n'est fidèle. Personne n'y arrive au final. Et quand on prend l'homme comme l'homme avec un grand H qui comprend l'humanité, c'est l'humanité entière d'un seul tenant qui n'y arrive pas. On peut y arriver une fois, au coup par coup, mais globalement, l'humanité n'y est pas arrivée. Voilà pourquoi il y a besoin de Jésus. Voilà pourquoi il a fallu qu'il meure pour nous, qu'il donne sa vie pour nous racheter. Parce que ce n'est pas possible durablement. Durablement, on le sait très bien. Et vous allez vous comprendre pourquoi durablement ce n'est pas possible. Une fois, deux fois, etc. Quand on est né de nouveau, les choses sont tout autres par contre. Tout autres. Mais quand on n'est pas chrétien, quand on ne connaît pas Dieu, on n'a pas le Saint-Esprit avec nous, ce n'est pas possible. Quand on est né de nouveau et qu'on suit le Seigneur, on verra, c'est possible d'être victorieux tout le temps. C'est possible. Mais avant, ce n'est pas possible. Mais on peut quand même le faire. Sinon, Dieu n'aurait jamais demandé à Adam et Ève de ne pas toucher le fruit défendu. Il faut nuancer. Donc, pourquoi est-ce qu'il est possible, j'essaie de raisonner, pourquoi est-ce qu'il est possible de lutter victorieusement contre le péché qui viendrait comme ça sur vous de l'extérieur ? Premièrement, parce que le péché est tout d'abord un acte conscient, on l'a vu, délibéré. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une décision, voire même de plusieurs décisions successives. D'accord ? Donc, il revient toujours à l'être humain, chrétien, croyant ou pas d'ailleurs, à l'homme avec un grand H, il revient toujours de se positionner librement. Voilà, je tue ou je ne tue pas. Ça ne concerne pas que les chrétiens, ça, arrêtons. Il nous revient toujours de nous positionner. Je vole ou je ne vole pas. Voilà. Le comptable, il doit se poser la question, je vole ou je ne vole pas. Il n'a pas besoin d'être chrétien. Il se pose la question, il a décidé. Et pour voler, je peux vous dire qu'il y en a des étapes. On ne vole pas comme ça. Deuxième argument qui nous amène à penser qu'on peut lutter et être victorieux en face du péché, c'est que le péché ne nous tombe pas dessus ex abrupto, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, chrétien ou pas chrétien. Mais le péché suit un processus avec différentes étapes et qu'il est toujours possible de dire non avant la transgression finale. Ça fait déjà deux arguments. Acte conscient, étape. Troisièmement, nous apprenons tous de nos erreurs passées. Même un comptable qui a volé, qui a été en prison, quand il sort, en général, il s'amende. Il ne recommence pas. Parce qu'il dit, j'ai payé, j'ai reconnu mon erreur, j'arrête. Donc, chrétien ou pas, on peut tous, par rapport à une tentation donnée, se dire, ah, je connais, ça va, je m'arrête. J'arrête ça. Donc, l'expérience. Parce qu'on est préparé, du coup. Ensuite, là, je parle un peu plus en direction des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Parce que on peut compter quand même sur le Saint-Esprit, il me semble. Quand le Seigneur vit en vous, il parle à votre conscience. Le Seigneur, il est vivant. Il parle. Moi, il m'est arrivé certaines choses. J'ai senti un malaise. Je me suis dit, non, le Seigneur me parle là, David. Et hop, ciao, au revoir. Parce que je sais que là, je sens que le Seigneur me parle. Et c'est impossible. La pression est trop forte. Le Seigneur te met dans une situation. Il te parle. Donc le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. D'accord ? Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, dit la Bible. Quand on est sur l'étape du péché, les étapes du péché, le Saint-Esprit te convainc, il te dit « Ah là 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 là, attention, là, ah, tu vas trop loin, tu vas encore trop loin. » C'est pas juste déconnecter, il n'y a pas une déconnexion Wi-Fi avec le Seigneur. Hein. Ça ne se passe pas comme ça, vous ne pouvez pas débrancher. Vous ne pouvez pas débrancher. Il est là, il vous parle. Un autre argument qui me fait penser qu'on peut lutter et être victorieux. Mais il y a quand même l'Église, il me semble. On peut demander la communion. On peut aller voir le grand frère, la grande sœur, mon frère, ma sœur, là. Je suis fatigué, là. J'ai des problèmes, tu sais, je vais craquer, là. Je vais craquer, je suis dans une situation, mais pas possible. Je sens que je vais craquer. Vous allez voir un grand frère, une grande sœur, vous vous confiez. Je ne peux pas prier pour moi, là. Pas m'aider un peu ces prochaines semaines, m'appeler un peu là, venir chez moi, j'en peux plus. Et alors, la prière, la communion, la confession, ça sert à ça l'Église quand même. On n'est pas tout seul, sauf si on se terre chez soi. Mais il faut compter sur Dieu et aussi sur les hommes. Les hommes, je dis, la famille de Dieu. Donc oui, on a des secours qui sont là. Péché, vous savez, c'est trop facile. Trop facile de dire, ah, j'ai craqué. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est très compliqué de pécher, en fait. La Bible nous révèle que la nouvelle création de Dieu est morte au péché et vivante selon l'Esprit. Je reprends dans Romains 8, 2. C'est écrit, « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, vous voyez, il y a une loi de l'Esprit. Il y a une loi du péché, il y a une loi de l'Esprit. M'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ainsi, pour la plupart des disciples, il faut être honnête, pour la plupart des disciples de Jésus-Christ qui ont grandi, je ne dis pas les jeunes pousses qui viennent de commencer, s'il y a des jeunes qui se sont baptisés il y a 6 mois, il y a 1 an, je ne parle pas de ces jeunes-là. Je parle des personnes qui marchent depuis un certain temps, qui se sont appuyées, qui ont grandi. Eh bien, quand on en est à ce stade-là, en général, je prends mon exemple, je ne suis pas tourmenté, hein. Je vous dis franchement, tous les jours par le péché. Je regrette, hein. Si c'est votre cas, je suis triste pour vous. Moi, le péché ne vient pas taper à ma porte tous les jours. Non, il n'ose pas le faire. Parfois, oui, mais pas quotidiennement. Je ne suis pas tous les jours tourmenté par le péché, tenté par... Non, à un moment donné, t'es là, quoi, t'es stable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faiblesse. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tomber demain. Peut-être demain je serai tombé. Mais sachez que il y a ce qu'on appelle une assise qui font que le diable fuit. Le diable ne s'approche pas de toi à n'importe quelle occasion. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il y a des garanties sur cette première partie-là. La première partie, il y a des garanties. On ne pêche pas n'importe comment, à tout va comme ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est ce que je voulais voir avec vous. Donc, la conclusion de cette première partie, c'est qu'il est possible d'être victorieux face au péché. Alors, pour conclure quand même sur cette partie, et pour vous donner envie, bien sûr, de revenir la prochaine fois, Vous savez, il faut agrémenter le travail de toujours un peu d'humour. J'ai une question. Mais alors, si les choses sont aussi rassurantes que ça, c'est rassurant ce que je viens de dire, vous allez tous repartir chez vous en disant, il y a au moins 6 étapes, je ne vais pas me laisser avoir. Première étape, convoitise, tu vas voir. Affaiblissement, tu vas voir. Séduction, tu t'inquiètes pas. C'est rassurant de se dire qu'on a quand même le temps de que ça monte au cerveau et d'agir. On a le temps d'agir, vous voyez. Donc ça, c'est très bien. Et puis, on peut s'appuyer sur les frères, les sœurs, sur le Saint-Esprit. On a vu, c'est très rassurant. Mais alors, soyons réalistes, concrets. Pour quelles raisons, au pluriel, certains d'entre nous, malgré toutes ces explications formidables, ont expérimenté des échecs répétés et douloureux face au péché? Je parle bien de chrétiens là, de gens qui sont engagés. Pourquoi donc, je suis sûr, si on devait révéler le secret des cœurs ici, y compris le mien, ben moi j'ai péché. Et je suis tombé aussi. Et on se dit, mais alors comment ça s'est produit? Comment est-ce possible? Eh bien, vous voyez, il me semble alors, très, très humblement, parce qu'en fait, la Bible peut éclairer cette question de plusieurs façons. Il n'y a pas que ce que je viens de dire là, il y a d'autres approches hein, complémentaires. C'est une seule approche. Gérard, ce n'est qu'une seule approche. Ce n'est pas tout, il n'y a pas toute la réponse ici, c'est une seule. Donc il me semble que l'une des clés, pas toutes les clés, l'une des clés à cette question se trouve dans le questionnement de la parabole du semeur et des terrains. Le terrain pierreux et le terrain épineux, c'est-à-dire envahi de ronces, peuvent en effet servir de représentation du cœur de l'homme en général et ainsi pour la représentation du cœur des disciples de Jésus. Et quand on va partir de là, on va voir qu'il y a des terrains, et qu'en fonction de votre terrain, vous allez voir que ce n'est pas si simple de dire non. Pas si simple. Il y a un terrain, chacun a un terrain qui est lié à sa vie, hein, n'est-ce pas ? Et vous allez voir que il y a des choses qui sont difficiles. Et on peut s'épuiser à dire, à se flageller, vous savez. C'est se flageller même. Il y a des gens qui faisaient ça hein, dans le passé. Hein. La flagellation, on se frappe après avoir prêché, péché. Hein. On peut faire ça toute sa vie, sans jamais réussir, sans jamais être victorieux. Des gens qui vivent ça. Hein. Eh bien non. Si on ne traite pas le terrain, on n'obtiendra aucun résultat. Donc, je vais vous expliquer ceci. Donc, la prochaine fois, on va essayer de voir ensemble. C'est passionnant. J'ai vu qu'il y avait vraiment un bel enseignement de Jésus là-dessus, qui passe inaperçu. Le péché ne doit pas être un sujet tabou. Le péché n'est pas un sujet à fuir, ni à être considéré comme insurmontable. Il faut regarder le péché en face. Et en regardant le péché en face, vous vous regardez en face. Vous vous regardez en face. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est concerné. C'est vous. Ça vous demande une intimité avec vous-même. Oui. C'est bien beau d'être toujours en superficialité, là. Il faut rentrer à l'intérieur. Et il faut dire, mon garçon, ma fille, tu as du boulot peut-être. Donc vous voyez, ça vraiment demande de l'humilité, du courage, du travail. Et l'enseignement de Jésus, il est là. Je terminerai quand même avec une petite phrase. La cause de l'échec de l'Église, enfin pas de l'Église, mais des chrétiens dans l'Église, c'est qu'on a voulu faire de l'Évangile un Évangile moral. C'est perdu d'avance. Vous savez pourquoi ? Parce que si on fait de l'Évangile un Évangile moral, on retombe dans le piège du bien et du mal. Terminé. Terminé pour vous. Vous êtes comme Adam et Ève, qui doivent choisir, qui ont la connaissance du bien et du mal, et vous êtes écartelés. Toujours entre le bien et le mal, et vous tombez. Ce n'est pas ça l'Évangile de Jésus. C'est un chemin de disciple. Vous savez, en Orient, ils ont plus cette approche, cette culture du disciple. Orient, quand je dis Orient, c'est par exemple Israël, et toute cette zone-là. On faisait des disciples. Il y avait même des sectes. Vous savez, attention, il faut se méfier des sectes. Mais on faisait des disciples. Nous, on a voulu installer en Europe un Évangile moral. Bien, pas bien. C'est mort. C'est terminé. C'est un chemin de disciple. Jésus nous enseigne qu'il y a un terrain. Donc il y a une marche, il y a un travail de disciple. On apprend toute une vie. C'est pas je fais bien, je fais mal à l'instant, c'est pas instantané. Vous voyez, c'est un gros écueil vraiment. Mais depuis des générations, on souffre de ça. On est en échec parce qu'on n'a pas compris qu'il faut être des disciples. Pas des adhérents à une morale. Pas se déculpabiliser. On verra là que la culpabilité, quand on parle du terrain, elle est inutile. Tant que ton terrain n'est pas restauré, tu te culpabilises pour rien, mon garçon, ma fille. Pourquoi ? Parce que c'est un travail avec le Seigneur. Et le Seigneur ne te juge pas, il te soigne. Vous voyez, c'est vraiment une autre approche. Donc, je vais prier pour que votre esprit soit ouvert, réceptif à ces choses, pour que le Seigneur travaille vos cœurs, pour que la prochaine fois, on puisse aller plus loin, et qu'après, vous puissiez mettre en pratique. Moi, j'ai commencé à... Cet été, j'ai réfléchi à ça, là. C'est lent, hein, dis donc. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment commencer à mettre en pratique ces choses et comprendre. Et je vois vraiment... Vous voyez, c'est dans ma tête, et j'y travaille, mais je sens que je vais avoir du travail, vraiment, là-dessus. Amen. Eh bien, Seigneur, merci pour ton enseignement formidable. Merci pour ton enseignement d'il y a 2000 ans qui est encore merveilleux aujourd'hui pour nous, qui nous donne le salut, qui nous donne la vie. La semence, c'est la vie. La semence, la parole est génératrice de vie. Tu ne demandes qu'à ce que l'on vive, qu'on l'on vive avec toi, attaché à toi. Mais tu veux que nous soyons dans la vie, mais à la lumière. Nous devons être à ta lumière, Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre avec toi, te comprendre, comprendre ce pourquoi nous sommes faits, comprendre ce que nous faisons si nous ne sommes pas éclairés. si nous ne sommes pas conduits sur le chemin, la vérité, ce n'est pas possible. Donc nous voulons, Seigneur, te demander de nous conduire, nous voulons être conduits par ton esprit à des vrais disciples, à comprendre cette vie de disciple, à ne pas être infantile, à s'agiter, à vouloir des résultats immédiats, comme des enfants. Nous voulons traiter le fond, nous voulons avancer posément, déterminés, conscients des difficultés aussi. Nous voulons la victoire parce que tu nous en rends capables, je le sais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen.